What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Great
easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas de fils. Papa, pas de fils.
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi. Vous qui ne savez plus qui vous êtes, un, une ou plusieurs, un personnage de fiction, réel, une chimère, une fantaisie peut-être, ou juste vous-même, bonjour et bienvenue. Plongez dans d'autres vies que la vôtre, vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, pour nous parler des films à l'affiche, les deux piliers de Barnum cinématographique, Olivier et Didier. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Salut Didier.
Bonjour.
Et toujours Sylvain à la réalisation. Salut Sylvain.
Salut.
Le troisième pilier.
Le troisième pilier, l'essentiel. Non, lui c'est le bar.
C'est le bar.
C'est le bar. On va parler aujourd'hui des films Marcello Mio, Rendez-vous avec Pol Pot, Paradis Paris et Les Chariots de Feu. Oui, la version de 1981, celle-là même. Ouais. Et ben on commence tout de suite avec une incursion dans l'Italie.
Mais c'est incroyable. Qui t'a fait ça? C'est pour des photos?
J'ai encore rêvé de mon père cette nuit.
Je ne peux plus me réveiller.
C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père.
Il te manque, c'est tout.
Sans moi, le monde peut bien tourner.
Mais Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça?
Bah, ça me rend heureuse.
Dis-toi qu'elle est comme une somnambule. Et... faut pas la réveiller brusquement.
Dure toute la vie.
Bonjour Nicole.
Vous connaissez Marcello?
C'est quoi ces conneries, Kira?
Marcello. Nicole, c'est Marcello, attention.
On a été heureux ici. Oui. It's very nice, it's
very nice. Marcello, Chiara, Marcello, on ne sait plus. Marcello Mio de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Catherine Deneuve notamment. Alors avant de te donner la parole, Olivier, puisque tu as vu Marcello Mio, je donne la parole fictive où j'incarne, tiens, Cathy, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous disait qu'elle avait une affection toute particulière pour Marcello Mio et pour elle. Ouais. Christophe Honoré réussit à nous emporter dans une histoire intime et familiale avec beaucoup de talent, d'humour, de fantaisie et de poésie.
Je souscris complètement parce que...
Bien, passons au prochain film.
Ah, non, parce que j'ai d'autres trucs à dire.
Ah, quand pardon.
Même. Bah, quand même. Oui, ce film-là, on voit bien quelle crainte on peut avoir quand même. Et certains critiques ne se sont pas privés de dire qu'il y avait, a priori dans ce film, une prétention qui confinait à la vulgarité, ou je dirais une vanité insupportable, parce que se mettre en scène comme ça, Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, enfin tous ceux qui sont là, quoi, Melville Poupeau, se mettre en scène et se dire qu'on a en soi... un intérêt suffisant pour donner naissance à un film dont on va être le centre, le sujet, les personnages, l'histoire, etc. Ça paraît quand même un petit peu énorme. Alors je dirais que c'est Christophe Honoré, il assume, tous les personnages assument, mais alors ils assument pas au sens, vous savez, du goujat qui remonte toute une file d'attente à une billetterie et puis qui passe devant et puis quand on lui fait la remarque, il dit ouais, j'assume, vous comprenez, ou le gars qui vous fait une saloperie sur la route et puis ouais, mais j'assume. Non, c'est assumé parce que il y a une nécessité intérieure de faire ce film. Et alors quand on est un peu comme moi, un peu quand même fan de ces stars du cinéma, bon, simplement je suis un peu midinette, quoi, donc j'aime bien voir ça. Et alors comme en plus je suis fan absolu de Marcello Mastroianni pour moi, c'est bon, c'est quand même la Dolce Vita, hein, et puis une journée particulière où il est absolument incroyable, si vous voulez. J'aime pas dire incroyable, mais il est inoubliable, voilà, dans ses rôles.
Fan. Oui, mon film préféré avec Mastroianni.
Oui, bien sûr.
Lequel?
Allons dans Fan des frères Taviani.
Ah. Mmh. Alors, du coup, ben, on se prend au jeu, parce que c'est un jeu. On se prend au jeu, et à ce moment-là, ces personnages un peu cultes, bon, on se laisse aller au culte, après tout, pourquoi pas, et comme tout culte exercé, non pas littéralement, mais en esprit, on finit par partager la souffrance de Chiara Mastroianni, dans la singulière, bien sûr, tout à fait singulière, on n'a pas comme père Marcello Mastroianni, comme mère Catherine Deneuve, on est bien d'accord. Mais son souci, tu parlais dans ta très belle introduction du problème de l'identité, de l'identité de genre, enfin, etc. Ce problème-là, nous pouvons tous, à l'occasion, le rencontrer. Et là, il est mis en scène en grand, à cause de la dimension des personnages qui sont là, c'est-à-dire bon, alors, et c'est supportable pourquoi ? Parce que Catherine Deneuve joue très bien la mère naturelle, c'est le cas de le dire, mais elle le joue naturellement. Et puis Mastroianni étant mort, bon bah lui il est parti dans la Maps of Stars, il est parti dans la carte des stars, donc de toute manière c'est pas grave si vous voulez, et donc on se laisse prendre, et moi j'ai reconnu dans le trouble de Chiara Mastroianni le trouble que j'ai pu éprouver par rapport à mon père qui a été aussi à sa manière écrasant par certains aspects et très absent par d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ? On reconnaît le trouble. Il se trouve qu'en prenant de l'âge, je ressemble de plus en plus à mon père quand je me rase. Des fois, je me redresse comme ça, je me vois, j'ai l'impression de voir mon père, un petit peu ce qui arrive à Chiara Mastroianni au début du film, hein, je ne divulgue pas. Au début du film, elle se retrouve devant le miroir, et puis bon, il y a un jeu comme ça, elle voit son père, quoi. Et elle croit qu'elle est son père, et elle va dire « Ah bon, puisque c'est ça, je vais être mon père, et je vais m'imposer comme mon père auprès de ma mère, auprès de mes proches, et puis ils feront avec, ou s'ils peuvent, et s'ils peuvent pas, tant pis, j'irai au bout du truc, quoi. » Et donc, c'est un film qui, à l'arrivée, est profondément original, évidemment, il est original, puisqu'il dépend de la stature des personnages mis en scène. Donc il est original rien que pour ça. Et puis il est original dans le montage, dans la photographie et dans l'investigation de cette recherche donc de son identité et en particulier de son identité sexuelle. C'est sûr que Chiara Mastroianni, en choisissant le même boulot que son père, elle ne s'est pas facilité les choses, ça c'est absolument évident. Voilà. Et donc, c'est un film qui m'a attrapé et beaucoup intéressé.
Marcello Mio de Christophe Honoré, qui est à voir à Aubenas et Auteuil. Peut-être, on discutait avant d'être en direct là dans le studio, on discutait des classiques du cinéma français et italien qui ne ressortent pas si souvent en salle. Peut-être que ce sera l'occasion de ressortir des films avec Marcello Mastroianni.
Ouais.
Donc Marcello Mio, on passe, alors là je n'ai aucune transition et je pense qu'il n'y a pas de transition pour le prochain film.
Ni rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener à bien notre projet de nouvelle société. Lanka va créer des hommes nouveaux, à partir de la classe des paysans pauvres, mettre fin à 2000 ans de l'histoire qui ont abouti au matérialisme et à la décadence, revenir à la pureté originelle. Ceux qui pourront être réformés le seront, les autres seront éliminés.
Glaçant ce rendez-vous avec Pol Pot de Riti Pan. Là, on n'a pas entendu dans cet extrait des acteurs, puisque Riti Pan mêle cette fois la fiction au documentaire. Fiction avec Irène Jacob, Grégoire Collin et Cyril Gueil, notamment. Didier, tu es allé voir Rendez-vous avec Pol Pot.
Oui, je voulais absolument voir ce film parce que je me souviens, moi j'étais pas très vieux à l'époque, à cette époque-là, et j'étais scandalisé par nombre de mes amis ou considérés comme tels. Qui professait le Cambodge, enfin on disait plus le Cambodge, on disait le Kampuchea comme vraiment l'exemple humanitaire sur Terre qu'il fallait suivre absolument, alors qu'en se renseignant un peu, on savait très bien qu'il y avait un génocide en cours là-bas. Oui, donc, ah oui, enfin moi je le savais, j'étais pas particulièrement informé, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, et il suffisait de lire Le Monde de temps en temps ou d'écouter la radio publique, et on savait très bien que le pays était bouclé et qu'il se passait des choses effrayantes. Il faut rappeler, et après je parle du film, mais ouais. Il faut rappeler quand même qu'à cette époque-là, dans les milieux d'extrême gauche, et en tirer, c'est pour ça qu'on... Moi, ça me fait doucement sourire quand on parle de Mélenchon comme étant l'extrême gauche la plus dangereuse au monde, etc. Que la lecture préférée, c'était le petit livre rouge. Hein, à l'époque, c'était quand même très, 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 très violent.
On est entre 75 et 79.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, pour revenir au film, donc, il se déroule en 1978. Donc, Pol Pot et les Khmers rouges sont au pouvoir depuis 3 ans déjà. Le Cambodge, qui s'appelle le Kampuchea démocratique maintenant, est totalement exsangue, une pauvreté, les gens meurent de faim, les villes sont désertées, ça je ne sais pas si on s'en souvient, Pol Pot a vidé les villes, il a emmené tout le monde à la campagne, il y a des images dans le film qui sont absolument incroyables, à Phnom Penh, avec les immeubles ouverts à tous les vents, l'herbe qui repousse dans les rues, c'est complètement incroyable. Le pays est interdit aux étrangers depuis plusieurs années. On saura après qu'à cette époque-là, il y avait déjà 2 millions de morts. Donc c'est un gouvernement qui a tué 2 millions de ses compatriotes. Alors ça, évidemment, c'est pas admis dans les cercles dont je parlais tout à l'heure. Et donc les illusions d'un monde meilleur, extraordinaire, démocratique, avec une égalité de tous les citoyens, dont effectivement certains occidentaux se sont vautrés dans cette idée-là réellement, c'est vraiment l'émotion m'étreint quand je repense à ça et après avoir vu le film. Donc exceptionnellement 3 Français vont être invités à venir au Kampuchea, donc faire un reportage et rencontrer peut-être Pol Pot. Dont, et ça je ne le savais pas, Pol Pot a fait ses études en France.
Oui. Mmh.
Et j'avais un peu zappé ça. Et donc sur ces 3 personnes... Oui.
En France ou à Saïgon dans un lycée français ?
En France.
En France.
En France.
Ah, je pensais que c'était...
À la Sorbonne. Donc ces trois Français sont une journaliste, un photoreporteur et un sympathisant du régime qui lui a fait justement ses études en France avec Pol Pot, donc ils se tutoient, ils se connaissent et qui est un sympathisant du régime, même si on comprend relativement vite que les désillusions vont s'enchaîner aux désillusions, parce que ce qu'on voit, ce qu'on pense et ce qui est arrivé dans les milieux révolutionnaires français à l'époque sont pas vraiment, quand on touche la réalité, c'est un petit peu autre chose. Donc le film est inspiré d'un livre d'une journaliste et correspondante de guerre américaine qui s'appelle Elizabeth Baker. Le livre s'appelait When the War Was Over, Cambodia and the Khmer Rouge Revolution, avec l'accent. Et je ne pense pas qu'il ait été traduit en français, malheureusement. C'est une des rares femmes journalistes à avoir couvert toute la guerre du Vietnam. Donc à l'époque, c'était quand même les femmes journalistes sur les terrains de guerre, il n'y en avait pas beaucoup. Et au Cambodge aussi, dès le début des années 70. Elle a ensuite continué, elle a vraiment été très très intéressée par ce qui se passait dans ces pays-là. Donc elle a ensuite continué à s'intéresser au Cambodge, Kampuchea, à travers les Nations Unies. Et on pense que c'est cette cette fidélité, entre guillemets, à suivre le pays et son intérêt, qui a amené Pol Pot à l'autoriser à venir en visite au Cambodge, Kampuchea. Donc, bon, on voit bien que le film a une très grande liberté par rapport au livre qui concerne une seule personne, une Américaine, etc. Mais le film dit Ritipan, le réalisateur, suit quand même beaucoup l'itinéraire de cette femme dans la visite, dans ce qu'on lui laisse visiter du pays. Donc Ritipan, pour en parler un petit peu, donc c'est un Cambodgien d'origine qui a connu les camps. Adolescent, à 15 ans, il a été torturé, il a été mis dans les camps qui étaient des camps de concentration, hein, où on, pareil, les gens n'avaient rien à manger, on les épuisait au travail, ça n'avait rien à envier aux camps nazis. Et il a pu se réfugier en France. C'est une des rares personnes qui a survécu justement au camp, il s'est réfugié en France et il a entamé une carrière de cinéaste au début des années 80. Et l'essentiel, alors pas que, mais l'essentiel de son œuvre est consacré au génocide cambodgien. Voilà, donc il était adolescent à cette époque. Quelques films que peut-être vous avez vu, ou dont les titres S21, la machine Khmer Rouge, dont même si on ne l'a pas vu, on connaît le titre, je pense. Dutch, le maître des forges, alors que je vous conseille fortement, parce que Dutch, le maître des forges, était un des principaux tortionnaires Khmer, qui a été jugé, qui est en prison maintenant, et dont est auquel Ritipan a eu affaire, et Ritipan va dans sa cellule maintenant pour l'interviewer. C'est un film que je conseille fortement parce qu'on est au cœur de l'horreur. Mais c'est intéressant de le savoir. L'image manquante également, qui a été un film assez marquant. Ici, il utilise d'ailleurs certains mécanismes qu'il avait utilisés dans ses films précédents, c'est-à-dire des projections en fond de décor d'images d'archives, des maquettes, puisque évidemment il y a très peu d'images du régime Khmer. Alors il y a des images absolument glorieuses de défilés, de choses comme ça, mais sur la réalité il y a quelques images clandestines, il y en a très très peu. Et quand il y a ni maquette ni image, il utilise des figurines. Donc c'est un film de fiction, mais qui amène aussi toute une notion documentaire à l'intérieur. Donc je pense que c'est un film vraiment à voir, à la fois parce que c'est un film de cinéma qui utilise différentes méthodes et que c'est toujours intéressant de voir ça. Et puis c'est un film de mémoire. On a un peu tendance à oublier maintenant hein, cette partie de l'histoire. C'est quand même pas si vieux, ça fait 50 ans. Et donc c'est intéressant de retrouver un peu cette part historique de ce génocide au cinéma. Donc film utile, comme dirait René, également.
Et Pol Pot, il me semble d'ailleurs, c'est l'ironie de l'histoire, il me semble que j'ai lu qu'il lui-même était intéressé par la réalisation de films et qu'il avait réalisé certains films.
Oui, il était. Alors on dit qu'il était très cinéphile.
Mais qu'il voulait éduquer. Juste, j'y pense parce que tu parles de film utile.
Mais alors lui semble-t-il, hein, était vraiment cinéphile et regardait des films interdits parce que évidemment les seuls films qui étaient autorisés étaient des films de propagande rééducatifs. Et donc il y a une séquence par exemple dans le film et ça c'est réel parce que je l'ai lu ailleurs. Ou qu'est-ce qu'un intellectuel pour les Khmer Rouges ? Un intellectuel, c'est quelqu'un qui porte des lunettes. C'est incroyable.
C'était une raison suffisante de se faire tuer
ou torturer ou mettre en camp.
Ouais, je suis donc avec deux intellectuels dans ce studio.
Absolument.
Rendez-vous avec Pol Pot à voir à Priva et au navire à Aubenas. Et il sera la semaine prochaine au Regain du Teil. Là non plus, il n'y a aucune transition. On contorsionne dans ce cinémascope.
C'est une chanteuse d'opéra. Elle a été déclarée morte par erreur et depuis, elle s'en remet pas. Enfin, faut dire que tout le monde l'a oubliée.
Ils ont écrit 60 ans. Je viens à peine d'en avoir 59.
Ma chérie, tu sais que ce soir, on va voir le nouveau psychiatre. Marie-Cerise, je me suis démenée pour t'avoir ce rendez-vous.
Je peux pas vous aider si vous me parlez pas.
Action !
Je travaille dans le cinéma.
Oui, yes.
Paradis, Paris, de Marjane Satrapi avec Monica Bellucci, André Dussolier, Eduardo Noriega notamment. Alors, j'ai eu un peu de difficulté à choisir l'extrait de la bande-annonce, et pourtant c'est une bande-annonce qui dure 1 minute 50, j'en ai extrait 30 secondes. Et je me suis fait la réflexion, alors je ne sais pas si c'est à l'image du film, mais que cette bande-annonce était pas claire, un peu foutraque, redondante, que je ne savais pas très bien ce que... C'était même, voire même ennuyeux, parce que redondant. Ouais. Alors...
Oui.
Marjane Satrapi, pourtant.
Oui, quand même.
Quand même. Je ne sais pas. Peut-être as-tu aimé ce film ?
Oui, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que cette semaine, du coup, j'avais vu deux films qui avaient au moins un point commun, qui était l'originalité. C'est-à-dire, une fois qu'on a vu son sort, on se dit, j'ai pas vu beaucoup de films comme ça. Mmh. Et ta sensation à l'écoute de la bande-annonce, et si tu l'as vu, je pense que ça n'a rien changé. Effectivement, on a la sensation d'un objet complètement éclaté dans une foultitude d'histoires. C'est un film choral, si l'on veut, mais dont les éléments, les membres du chœur se rencontrent très très peu dans le film. Ils sont à peine tangents par moment. Les histoires sont à peine tangentes par moment. Donc effectivement, on a l'impression d'un très grand désordre. Et alors, tu parlais de répétition également. Dans la mesure où on assiste à la présentation de toute une série de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont au bout. Sont à l'extrémité, sont, comme on dit aujourd'hui, au bout du scotch, au bout de leur vie, quoi. Et c'est le point commun. Donc, il y a une adolescente, là, suicidaire. Je vais rien divulguer, hein. Tout ça est présenté. Ça fait partie de la présentation du film, hein. Une adolescente suicidaire, incarnée par Chaline Balu-Eman, une chanteuse d'opéra qui n'a pas eu d'engagement depuis 15 ou 20 ans et qui se croit toujours la soprano indispensable du monde de l'opéra, c'est Monica Bellucci. La pauvre, elle est tenue pour morte à peu près 24 heures. On dit pas qu'elle est vivante, elle s'attend à avoir une foultitude d'articles de journaux pour pleurer sa disparition, et en fait il y a à peine un entrefilé dans un quotidien, voilà. Bon, vous avez un cafetier incarné par Alex Lutz qui lui est dans une espèce de routine répétitive depuis qu'il a perdu l'amour de sa vie. Vous avez un animateur vedette, c'est André Dussolier. Le cafetier, ouais, donc Alex Lutz, merveilleux. Vous avez un animateur vedette incarné par André Dussolier. Alors lui, non seulement il est au bout de carrière, il va devoir arrêter son émission, mais en plus, son émission, c'était une émission un petit peu sensationnelle sur les expériences de mort imminente, etc.
Donc, ça nous rappelle des choses dans les années 90.
Oui, tout à fait, complètement. Vous avez ensuite un cascadeur incarné par Ben Aldridge, donc qui lui doit, à la place de son acteur vedette, jouer évidemment toutes les situations limites, encore une fois, voilà. Et puis il y a, je voudrais pas l'oublier, Rossi de Palma qui joue une grand-mère espagnole, donc la plus âgée d'une série de trois femmes, hein, d'une certaine manière, et donc qui incarne, en plus elle est très grosse fumeuse, elle peut pas ça, qui incarne effectivement elle une des extrémités d'une génération. Rossi de Palma, je vous fais pas un dessin, elle est incroyable dans ce rôle de l'addict au tabac et puis à d'autres choses. Et donc, voilà, cette impression de bouquet et donc potentiellement de fouillis est bien réelle et bien justifiée. Mais, et c'est là le coup de force, je trouve, c'est que Paris est en quelque sorte le monde dans lequel toutes ces histoires se déroulent. Paris donne son unité à toutes ces histoires, avec son architecture, avec ses voies de circulation, enfin, etc., avec son esprit, l'esprit de Paris, le café, là où on boit le petit crème, les quais, enfin, etc., les monuments connus, etc., ça assure. Et donc, le monde, l'ici-bas, quelque sorte, est incarné par Paris, et vous avez toute une série de personnes qui sont sur le point de passer dans l'autre monde, d'une certaine manière.
Le paradis, ok, tout c'est clair.
Voilà, d'où paradis, Paris, on a les deux mondes qui sont juxtaposés avec toute une série de personnes dont on peut penser qu'elles vont faire la bascule, évidemment. Il y en a qui assurent d'ailleurs aux autres, enfin, qui pourraient leur permettre d'assurer leur bascule, mais ça, je vais pas en dire plus parce que ça serait dévoilé. Et du coup, ça m'a fait penser au concept taoïste de Wu Ji, c'est-à-dire sans extrémité. Souvent, on traduit par le vide, le néant. En fait, non, ce qu'on entend par le Wu Ji, c'est ce au-delà de quoi on voit plus ce qu'il peut y avoir. C'est sans extrémité, sans sommet, voilà, comme quand on est au sommet de la montagne et qu'on regarde et qu'il y a plus de sommet au-delà, quoi. Donc, ces gens sont dans cette situation-là. Il n'y a pas de croyance particulière développée là. Hein. C'est une grande interrogation. Ça peut être le paradis en question, peut très bien être le néant définitif. Hein. C'est pas vraiment la question. Dussolier le dit à un moment donné, il va quand même bien falloir mourir, quoi. Mais il n'y a pas d'option sur ce qui... Voilà. Et du coup, on a un film léger, souvent drôle, et en même temps réellement profond et original du fait de son aspect kaléidoscopique comme ça. Voilà. Donc c'est plaisant et on retrouve Marjane Satrapi, son humour, son talent pour croquer des personnages déjà dans Persepolis ou d'autres.
Et ce qu'on sait, est-ce que tu es allé chercher ce qui a motivé ça? Est-ce qu'elle-même est au bout du scotch ou...
J'ai l'impression que pour elle, la France a été une des extrémités d'un parcours qui l'a conduite de son Iran natal jusqu'ici, et que peut-être, je ne sais pas, la culture européenne contemporaine est quand même un petit peu vide. Hein. C'est difficile dans notre culture européenne contemporaine, de se trouver des raisons de vivre, hein, de continuer d'avancer. Et je pense qu'elle a dû vivre Paris comme le lieu d'un refuge merveilleux, cosmopolite, avec un très très haut niveau de culture, hein, des standards quand même élevés dans la culture à Paris, bon, dans tous les domaines, on peut pas nier ça. Mais, et puis, c'est-à-dire, il y a ce côté, oui, bon, et puis. Mais, avec... Une espèce de foi dans l'énergie qui nous met en route, ou qui nous maintient en marche. Donc, c'est très intéressant.
Pas en marche, enfin, on ne fait pas de politique, mais c'est vrai que...
non, surtout pas celle-là.
Pardon. Donc, Paradis perdu, c'est à voir au navire à Aubenas, et la semaine prochaine, ce sera à Privas. Et puis, on va plonger, là, on a parlé un peu... Alors, pour Pol Pot, pas en creux, vraiment, c'est le cœur du sujet. Mais là, en parlant de Marjane Satrapi, on a parlé aussi de l'Iran et donc de l'histoire. Là, on va faire un saut d'un siècle d'histoire. Ouais, c'était il y a 100 ans. Avec Les chariots de feu de Hugh Hudson, donc ce film de 1981 qui est ressorti, qui a été restauré en 2023, je crois.
Peut-être, j'ai pas vu.
et vous avez reconnu la bande-annonce mythique de Vangelis Vangelis, qui, dans les années 80, fait les bandes annonces de pas mal de films. Il y a Blade Runner.
Et pas que, nombreuses musiques originales aussi, et qui a rejoint le paradis des synthétiseurs il y a 2 ans, je crois, maintenant.
Et oui. Il danse là-haut avec toute cette palette de synthétiseurs. Blade Runner. Mais donc là, les chariots de feu. Didier, un mot sur
avec grand plaisir. Pour moi, c'est un très très grand film et je suis pas le seul à le penser puisque il a obtenu. Alors déjà, Olivier le pense aussi. Toi, je sais pas.
Oui.
Et pas mal de gens aussi puisqu'il. On peut rappeler qu'il a obtenu 4 Oscars quand même, dont meilleur film, meilleur costume, meilleure musique, meilleur scénario original. Excusez du peu, sans parler de tous les autres prix qu'il a glanés.
Meilleure interprétation masculine dans un second rôle pour l'entraîneur.
Magnifique. Donc on est effectivement, alors au début du film, au début des années 20, donc il y a un peu plus d'un siècle, et on fait la connaissance de 2 jeunes gens qui sont des étudiants, mais qui sont aussi des athlètes, et qui vont commencer à s'affronter, en particulier dans la course à pied. Donc l'un s'appelle Abraham, et va développer... alors c'est pour ça que tu disais, on ne fait pas de politique tout à l'heure. Si, parce que c'est un film sur le sport, mais c'est aussi un film éminemment politique, et qui va développer une lutte contre le racisme et les préjugés. Et l'autre s'appelle Lidl, je crois, ou Riddle. Et c'est lui, c'est un Britannique de pure souche, qui va... plutôt militer dans le côté religieux, presque intégriste, voilà.
Oui,
bien intégriste. Et ces deux personnages vont se croiser tout au cours de leur vie, vont devenir des sportifs accomplis, jusqu'au final du film, qui se déroule en 1924, donc là il y a juste un siècle, pendant les 7e Jeux Olympiques qui ont lieu à Paris. Donc le film est absolument somptueux. Moi, chaque fois que je pense à ce film, l'image qui me vient, c'est au début du film, la plage avec ces jeunes gens en blanc qui courent avec cette musique justement planante. C'est absolument extraordinaire. C'est un premier film. Je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est maîtrisé comme un vieux de la vieille. C'est un premier film. Et c'est assez extraordinaire. On a rarement des premiers films de cette ampleur avec un tel budget aussi maîtrisé. Voilà. Donc, juste dire que le second film sera aussi un gros succès dans un autre genre, Greystock, qui nous fait découvrir Christophe Lambert.
Oui.
Greystock, la légende de Tarzan.
Voilà. Bon, moi, je préfère les chariots de feu. C'est-à-dire que, évidemment, avec des films comme ça, il y a toujours une histoire personnelle. Moi, je suis coureur à pied, chrétien et patriote. Je dis pas nationaliste, patriote. J'aime mon pays, quoi, c'est tout. Quoi.
Comme Florian Philippot.
Non, pas du tout. Ah, oh, purée, non, il fallait pas me faire ça, quand même. Non, enfin, j'espère que tout le monde m'a bien compris. Et effectivement, il y a une identification avec les choix de ces athlètes-là qui est évident. Et bon, Didier a tout dit.
Exceptionnel, ouais. Les chariots de feu, et c'est le regain du Taï qui le repasse. Donc, ce sera ce soir à 20h30. Dimanche à 14h30. Juste un mot, Hugh Hudson, il a fait effectivement donc Les Chariots de Feu, Greystock, et après...
Si, il a fait des films, mais qui n'ont pas... Oui. J'ai revu sa filmographie, enfin j'ai revu les titres, avant de venir, pour voir. Je crois que j'en ai vu aucun. C'est des films qui n'ont pas marqué, donc il a deux premiers films qui sont vraiment très réussis et qui sont des succès énormes. Et puis, oui, une suite de carrière relativement moyenne.
Il s'est désarticulé vers la fin, comme on dit en athlétisme, quand on court. Il s'est complètement désarticulé, même, je vais dire, au début. Il a fait un beau départ, très très beau départ. Et puis après,
il y a des scènes de course à pied sur la plage. Là, il court super bien, les gars.
Je vous entraîne sur une course, mais il nous reste très très peu de temps. Juste pour dire, dans l'actualité, cette semaine de la Maison de l'Image et de la tournée, donc cinéma itinérant dans les villages, il y a 2 films. Bob Marley One Love qui sera ce soir à Tueil à 20h30 et puis Petite Main qui sera toujours à Tueil
à Boré je crois
et à Boré. Ah oui, non, à Boré, pardon, samedi à 20h30. Merci, Olivier. Et donc, tu as vu ces deux films, et juste, tu as une minute pour nous donner envie, aux auditeurs, d'aller voir.
Bob Marley, pour entendre du reggae, mais faites gaffe, il donne envie de fumer. Et puis, Petite Main, parce que c'est peut-être un petit peu outrageusement optimiste quant aux luttes sociales, mais c'est quand même, disons, c'est quand même un petit coup d'œil sur l'aliénation au travail, quand même.
Mais ça nous fait du bien, ça serait presque un film utile.
Oui, sauf s'il désarme.
Aïe.
C'est toute la question.
Bon, merci à tous les deux d'avoir été ici encore une fois sur ce plateau de Cinémascope, et merci Sylvain à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Cinémascope de la saison.
Déjà.
Ouais, faites le plein, soyez présents à 12h10 autour de la radio et puis évidemment dans les salles de cinéma. Ciao. Voilà.